Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA 107.5. Alors on est content de vous retrouver ce soir dans le studio, c'est Fred qui vous parle, et il y a Axel et Pierrick.
Salut.
Bonjour.
Alors aujourd'hui c'est l'épisode 33 de l'Étoile Polaire. Et pour ce soir, voilà le sommaire. On va commencer par quelques actus du monde de l'astronomie. Ensuite, ce sera le ciel ce soir. Axel nous parlera de la chevelure de Bérénice.
Oui, tout à fait.
Constellation un peu méconnue, pas forcément extrêmement repérable.
Oui, mais il y a des choses à dire.
Ensuite, ce sera la chronique spatiale de Pierrick,
ouais,
qui nous parlera...
des animaux dans l'espace.
Voilà. Et après la pause musicale, ce sera le point d'astro. Et là, c'est moi qui vous parlerai des méthodes de détection des exoplanètes pour clôturer un peu la petite série d'émissions sur la formation des planètes et sur la planétologie. Voilà. Alors, on va démarrer avec les actus. Et ça me permet de vous rappeler qu'on calculait ça avec Pierrick là, depuis les 2 ans qu'on a démarré cette émission. On est à peu près à une toutes les 3 semaines. Un peu le rythme de croisière qu'on a pris. Et donc, avec le calendrier de ces enregistrements, et bien la première diffusion, c'est ce dimanche 3 avril. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Et bien, il y a quand même des petites choses un peu remarquables qui sont assez facilement observables par tout le monde sans matériel ou aux jumelles. Donc, je vous les mentionne, par exemple, là, bon, ce sera trop tard, mais vendredi, le 1er avril, c'est le meilleur moment pour faire ce qu'on appelle le marathon de Messier. Alors Axel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce marathon?
Alors, c'est un petit jeu d'astronome amateur qui n'a rien de physique, contrairement au marathon. Mais en fait, alors, je fais un petit rappel, les objets Messier sont des objets catalogués par l'astronome français Charles Messier, qui cherchait une comète, la comète de Halley, et qui ne la trouvait pas, et qui a commencé à marquer tout ce qui pouvait ressembler à une comète, mais qui n'en était pas. Et c'est devenu le catalogue de Messier. Il y a 110 objets qui sont assez plébiscités par les astronomes amateurs, puisque avec les petits instruments qu'on a aujourd'hui, voilà, comparé à l'instrument que lui avait pour observer, on est à peu près...
Après, on n'a pas le même ciel que lui du tout.
Oui, c'est vrai.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, c'est un catalogue des objets les plus brillants du ciel,
c'est ça,
tout simplement.
Ça reste des objets faciles.
Donc, les plus facilement repérables.
Parce que,
en termes de qualité lumineuse.
À son époque, il n'y avait pas de pollution lumineuse, pas de pollution même
c'était
tout court.
C'était sous Louis XV.
C'était 17e
17,
16e.
Okay, ouais.
Donc, c'est avant l'électricité, avant tout ça.
Ouais.
Ils avaient un pur ciel.
Donc, en fait, même il y avait un observatoire à Paris, par exemple.
Et donc voilà, il a fait ce catalogue, il est resté dans l'histoire pour ça. Et donc il y a 110 objets, ça peut être des galaxies, des amas d'étoiles, des nébuleuses. Et elles sont dispersées dans tout le ciel. Mais il y a un moment dans le ciel, comme on n'a pas le même ciel en été et en hiver, vous le savez. Il y a un seul moment dans l'année où les 110 objets sont visibles en même temps sur la voûte céleste.
Et on peut faire ce fameux marathon.
On peut observer les 110 à la suite. Alors, il y a toutes des stratégies. Constellation, puis celui-là, il se fait chemin pour optimiser le temps.
Et pour suivre aussi la rotation de la voûte céleste.
Oui, c'est ça. Il y en a qui doivent
qui
se coucher
d'abord et
qui se lèvent.
C'est comme un guide un peu que tu suis, quoi.
Ouais.
Mais ça doit être beau. Hein. Mais bon, après, là, il faut quand même s'y connaître un peu en pointage pour arriver à faire ça.
Je pense.
C'est pas à la portée.
C'est chaud, c'est clair.
Ouais.
Et alors, on devait le tenter avec une partie de l'équipe ce week-end, mais malheureusement, la météo a l'air défavorable.
Ouais. Donc, ce sera pour une prochaine année.
Voilà. Peut-être. Alors, je sais pas si c'est possible encore la semaine prochaine ou si c'est vraiment il y a quelques jours près.
Si on en voit 90, déjà, c'est cool, non?
Oui,
c'est clair.
Avec si la première année, oui, on en fait 50.
Ouais,
déjà pas mal.
Déjà beau. Ok, donc voilà, ça c'était pour le vendredi 1er avril. Et
c'était la petite blague d'astronomie. Enfin, c'est un vrai
truc. Donc le lendemain, on a un tout petit radeau lunaire. Non, mais ça doit être hyper beau à voir et à faire. Mais, c'est technique, quoi.
Ouais.
Et donc il y a un tout petit radeau lunaire, un croissant de 36 heures qui va être là au crépuscule. Bon, mais assez bas sur l'horizon, donc il faut avoir un horizon dégagé. Voilà, et donc pour ce premier jour de diffusion de l'émission de cet épisode 33, C'est dimanche. Donc dimanche, en fait, vous avez la possibilité de voir une planète qu'on n'a pas forcément, enfin qu'il n'est pas forcément facile de repérer, jusque là, et ça va pouvoir se faire avec une paire de jumelles. Donc c'est aussi pour ça que je le mentionne. Donc dans le ciel du soir, donc dimanche soir, vous avez la Lune en fin croissant. Et donc il faut pointer la Lune aux jumelles. Et en fait, dans le même champ de vos jumelles, vous allez voir un petit point brillant qui apparemment sera gris-vert. Et ça, en fait, c'est la planète Uranus.
Oui.
Donc là, il y a double avantage. C'est-à-dire, si vous avez... à l'œil nu, vous ne le verrez probablement pas. Mmh. Si vous avez des jumelles, vous pouvez le tenter. C'est simple, il suffit de pointer la Lune. Mmh. Donc dans le ciel du soir de dimanche, mais uniquement donc pour le premier jour de la diffusion de cet épisode, c'est-à-dire le 3, dimanche 3 avril. Ouais. Voilà, donc et à ce moment-là, si vous derrière vous avez un télescope, eh ben, vous avez repéré Uranus, et à ce moment-là vous pouvez pointer la planète et là passer un grossissement un peu supérieur et voir ce qui se passe. Après, si c'est bas sur l'horizon, bon, de toute façon ça risque pas, mais on peut voir la couleur et peut-être un disque.
Elle est où par rapport à la Lune?
C'est pas spécifié.
Okay.
Ça, voilà, c'est une sorte d'éphéméride du ciel. Voilà, donc c'était pour ce premier point d'actu. Et ensuite, Axel, tu m'avais dit là que tu avais deux, trois petites choses à nous raconter.
Sur l'actu?
Ouais, sur l'étoile la plus lointaine.
Ouais, c'est ça. Alors la NASA fait un communiqué en grande pompe aujourd'hui pour la détection d'une étoile grâce au télescope spatial Hubble. D'une étoile qui brise le record de l'étoile la plus lointaine qu'on ait observée. Et dans l'astronomie, le plus loin, ça veut aussi dire le plus vieux.
Et le plus tôt, dans l'histoire de l'univers et de sa formation.
Et donc, cette étoile, elle est située à 12,9 milliards d'années-lumière, sachant que l'univers a, rappelle-nous Fred, 13...
Le Big Bang, bon, il n'y a pas de datation à l'heure près, hein, mais on est quand même sur l'ordre de grandeur de... c'est moins de 15 milliards, quoi.
Je crois qu'on a 13,2.
Donc on est plutôt sur 13, 14, voilà. Ouais, mais là, tu me parles de 12,3, donc on commence à s'approcher quand même très très près, quoi. Ouais. Alors c'est sûr qu'un milliard d'années, bon, à notre échelle, ça me semble... mais quand on s'intéresse à l'astrophysique et à la théorie du Big Bang et des formations de l'univers, bah, c'est clair qu'un milliard d'années, c'est pas grand-chose.
C'est ça.
Donc, c'est les premières étoiles,
premières générations.
La première matière de.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Exactement.
Parce que voilà, on la voit telle qu'elle était à cette époque-là. Aujourd'hui, elle est sûrement morte, cette étoile. Mais...
Car donc, rappelons-le, la vitesse de la lumière a beau être très rapide, hein, 300 000 km par seconde, elle reste finie. Oui. Et donc, il faut quand même du temps à la lumière pour parcourir des distances qui sont réellement incommensurables.
Voilà. Le premier bébé.
Elle a été détectée grâce à ce qu'on appelle un système de lentilles gravitationnelles, qui est qu'il se trouve qu'elle est dans l'axe, sur l'axe entre elle et nous, il y a un amas de galaxies, donc, ce qui forme un objet très lourd dans l'univers, et ça déforme l'espace autour et donc la lumière, et ça nous permet de voir en grossi des choses qui sont beaucoup plus loin.
C'est ça, comme une lunette astronomique, mais version gravitationnelle.
Exactement. Donc voilà, et donc c'est le Hubble qui l'a découvert, on attend. Le James Webb a déjà une mission prévue pour la fin de l'année pour observer ça, puisqu'il l'observera mieux. Puisque tu avais dû en parler, le décalage vers le rouge est très présent sur un objet très loin, comme ça, et le James Webb qui travaille en infrarouge sera moins gêné. Voilà. Et donc ça me permet de passer à notre actu, le point sur le James Webb.
Voilà, c'est ça.
La collimation est finie, ou peut-être qu'il peaufine encore un peu, mais la première image focalisée, je cite, dépasse les attentes. Donc ils sont très contents.
Donc on précise, ça concerne en fait l'alignement des miroirs, quoi, de faire qu'ils réfléchissent. Vu que c'est quand même un système par réflexion, il faut que tout soit parfaitement aligné avec des angles extrêmement précis.
Pour faire une mise au point.
Pour faire une mise au point la plus optimum possible. Donc ça, c'est
vrai. Il y a 18 miroirs, non? C'est ça?
Je ne sais pas, mais c'est énorme, quoi.
Voilà, donc...
Bref, avec les variations de température qui vont avec...
Ils peuvent régler chaque miroir de l'ordre d'un dixième d'un diamètre de cheveux. Les petits pistons dessous. Bref, il va sûrement nous donner des belles images.
Donc lui, il va bien installer un peu les petites nouvelles du James Webb. Hein, suit, parce qu'évidemment, on attend quand même tous un peu les premières images vraiment qui est grand public, on va dire.
Ça.
Donc ça va voir.
Ça sera dans l'été.
Ok. Alors, voilà pour les actus d'aujourd'hui. Et on va passer au ciel ce soir et à cette fameuse chevelure de Bérénice. Alors déjà, est-ce que, Axel, tu peux me rappeler où c'est exactement? Parce que, sincèrement...
Alors, bien sûr. Alors, la chevelure de Bérénice, en ce moment, elle n'est pas tout à fait au zénith, mais elle est très haute dans le ciel. Au zénith, on a la queue de la Grande Ourse, avec l'étoile Alcaïde au bout de la queue. Et il faut former un triangle. Alors, si on poursuit la queue de la Grande Ourse, on tombe sur Arcturus, dans le Bouvier, c'est ça?
Ouais.
Et on essaye de former un triangle en partant plus vers l'est, et on tombe sur la Vierge et sur Spica. Ouais. Donc voilà, former un triangle Alcaïde, Spica, Arcturus. Mmh. Et à peu près au milieu, entre Alcaïde, Spica, mais au milieu de ce triangle.
Toi, tu le mets en triangle, moi je le vois carrément en continuant encore la boucle.
Ah
en
oui,
fait.
En continuant la boucle, oui. Une sorte de U un peu.
En partant, vraiment avec Arcturus et.
Spica.
Et
là, il a queue de la Grande Ourse.
Oui.
Ouais. Ça marche aussi. Voilà. Moi, je le vois aussi, je me le représente avec la Grande Ourse. Si tu imagines droit, tu descends sous Alcaïde, sous le manche. Mm. Tu as d'abord les chiens de chasse.
Oui.
M51, la galaxie du tourbillon, tout ça. Tu descends encore, tu as la galaxie du tournesol.
C'est plein de galaxies par là-bas, dans la chevelure de Bérénice.
Tournesol,
c'est là. Et là, avant d'arriver sur la Vierge, tu as la chevelure de Bérénice. Mmh. Alors, effectivement, ce n'est pas des étoiles très marquantes. Non, voilà, c'est beaucoup moins marqué que d'autres, que Orion.
Même la Vierge, à part Spica.
Oui, c'est ça. Mais ce qu'elle a d'intéressant, cette constellation, c'est que c'est une des deux seules qui porte le nom d'une vraie personne qui a existé sur Terre. Ce n'est pas issu de la mythologie, Bérénice. C'était une princesse, une reine même, pardon, en Égypte. Et son mari était parti à la guerre. Et pour le protéger, elle est allée faire une offrande. Elle a offert une mèche de ses cheveux. Je ne sais plus à quelle déesse. Je peux le lire, c'était Aphrodite.
Tout simplement.
Voilà. Et elle est rentrée chez elle, et puis le lendemain, elle est allée reprier, j'imagine, et il n'y avait plus sa chevelure. Et le religieux qui était là, le prêtre, je ne sais pas, lui a dit « Oui, Aphrodite, elle a accepté, elle l'a placée dans le ciel. Là, voilà, ta chevelure. » Et donc ça fait comme deux tresses, ça fait un petit triangle, un petit chapeau, et un accent circonflexe un peu. Voilà, et dans cette... chevelure de Bérénice, si on avait fait le marathon Messier, on y serait passé, puisqu'il y a plusieurs objets Messier. Il y a des amas globulaires, je crois qu'il y a M53, M3.
Donc c'est sûr que c'est assez
nébuleux. Il y a la galaxie de la baleine, je ne sais plus si elle est dans les Messier. Voilà, voilà.
Okay,
et donc l'autre constellation, mais j'en parlerai plus tard, on la voit bien l'été, c'est l'écu de Sobieski.
Ah ouais.
Sobieski était aussi un personnage historique.
Ça,
ouais. Je crois que c'est la plus récente des constellations d'ailleurs.
Okay.
Et puis au niveau
des planètes,
alors le soir, il n'y a toujours pas de planètes, Jupiter et Saturne sont couchés derrière l'horizon.
C'est tout le matin, du coup.
Mais
bas,
par contre, on a une petite conjonction le matin. On a trois planètes à l'est, dans le Capricorne. De gauche à droite, on a Vénus, puis Saturne, puis Mars. J'ai vu d'ailleurs une belle photo récemment de Saturne au matin. Sur
Saturne
un ciel
et
bleuté,
Mars sont hyper proches, quoi.
Oui. Oui, cette année, ça va être Mars, là, Star. Cet été.
Ok, ça c'est plutôt pas mal.
Voilà.
Merci pour tout ça, Axel. On va continuer un peu le déroulé de cette émission et on va passer à la chronique spatiale.
Ouais.
Alors, tu veux nous parler des animaux dans l'espace.
Exactement.
Qui dit espace, dit fusée, dit passager.
Et dit chronique spatiale.
Et ouais, effectivement, avant d'envoyer des humains dans l'espace, on a fait des tests sur les animaux.
Eh ben oui.
Alors, je pense que tout le monde, en entendant ça, pense à Laika tout de suite.
Et ouais.
C'est sûrement la plus connue, tu viens de nous en parler.
Ouais, carrément.
Je te laisse continuer.
Ouais, il y a eu Laika, mais il y en a eu plein, en fait.
Oui.
Il y en a eu beaucoup, beaucoup.
Alors, fais-nous l'inventaire
ménagerie. La première chose à dire, c'est qu'il se posait la question de comment survivre. Est-ce qu'on peut vivre dans l'espace? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'humain prend des risques? Les premiers à faire ça, c'est les frères montgolfiers, qui ont déjà, dans leur montgolfière, qui avaient mis des animaux.
Ouais. Ils étaient arrivés jusqu'où avec la montgolfière.
Alors, je ne sais pas, je ne suis pas allé jusque-là.
Mais... l'espace.
Non, pas chez l'espace, mais ils avaient testé la montgolfière d'abord sur des animaux,
oui, voilà, oui,
avant de monter dedans.
Ouais, ouais, d'accord,
je voulais dire. Ils ne sont pas eux-mêmes allés tout de suite direct dedans, okay. Ils ont envoyé un chien. Et...
ouais, ouais, ils ont testé les animaux.
Ils ont vu
ouais.
ce qui se passait, quoi.
Ah ouais, ouais.
Donc voilà, ouais. C'est vraiment l'idée de. Est-ce que c'est dangereux
ouais, est-ce que la vie peut continuer
est-ce, voilà, est-ce que je peux respirer là-haut ouais,
est-ce que je peux vivre? Est-ce que ça marche?
Est-ce que le soleil va me brûler si ouais. j'en ai pas
Donc il y a vraiment ce côté-là, et bon, c'est voilà, les animaux, c'est les plus proches de nous. Donc, Et donc les premiers recensés, en tout cas, c'est en 1947. Donc juste après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont récupéré. Des V2, donc
les fusées allemandes,
les premiers missiles,
enfin, les missiles
allemands de la guerre. Et en 1947, ils ont envoyé un V2 donc dans l'espace, donc à 100 km d'altitude, et avec des mouches à l'intérieur pour voir si elles pouvaient vivre.
Ça y est, une petite vengeance quand
même.
Des moustiques, ça aurait été bien.
Et elles sont revenues saines et sauves, donc voilà, c'est ok, ça marche à peu près. Et donc, les US, ils ont continué tout ça avec des V2 en 48. De 48 à 51, ils ont fait des essais, ils ont envoyé des singes. Ah ouais. Albert Ier, c'est le premier singe en apesanteur. Après, il y a eu Albert II.
Albert Ier.
C'est pas une blague. Hein,
Même ça sonne comme une blague.
Ouais, ouais.
Bon, on est le 3 avril. Tu nous parles de la monarchie de Monaco.
C'est Albert Ier, le premier singe dans l'espace, ouais. Carrément.
Et donc ils sont morts là-haut
ouais.
Oui, ils redescendaient.
Ils sont morts soit là-haut d'asphyxie, soit la redescente n'était même pas prévue du coup. Ouais. Bon bah voilà, ils étaient
sacrifiés pour la cause.
Voilà, une étoile filante dans le ciel. Après voilà, si ils ont testé des parachutes, des machins, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché et il y a eu beaucoup d'échecs. Donc voilà.
Donc beaucoup d'animaux morts.
Et ouais. Ben donc ouais. Jusqu'à Albert VI. Alors j'ai pas tout compté mais. Et du coup voilà, ça c'est côté américain. Et côté URSS en 51 ils envoient le chien deux chiens, Desik et Tsigan, dans un vol suborbital qui marche. Et bon, c'est pareil, ils reviennent pas parce que le parachute s'est pas déclenché, je crois. En 57 il y a Sputnik 2 avec Laika.
Ouais, fameuse.
C'est la première chaîne en orbite en fait.
Ah,
ça, il y en
ça.
A eu avant, mais elle, c'est la première
pour ça
en orbite.
Elle est si fameuse.
D'accord.
Ouais. Et que ça avait fait beaucoup de bruit aussi de la part de l'URSS. Enfin, que.
Dans la course à l'espace.
Ouais, voilà. L'URSS ne s'attendait même pas à ce que ce soit vraiment. Que ça ait autant d'impact.
Ouais.
Et c'est aux USA, ils en ont fait tellement un pataquès que. Ah ouais, trop bien.
Okay.
Parce que comme j'ai dit, il y en a eu avant. Ouais. Mais comme c'était la première mise en orbite et qu'elle était assez éloignée dans l'espace, genre à 1000 km ou quelque chose comme ça, beaucoup plus que les 100 km d'avant, c'est un peu une prouesse technique voilà, qui marquait le coup. Quoi. Après, dans les années 60, il y a eu d'autres chiens. Hein. Donc là, ils ont envoyé, les Russes, ils ont envoyé Polka, Stelka, un lapin, 42 souris, 2 rats, des mouches. Ils sont tous revenus vivants.
C'est un peu tous les insectes ouais. et animaux de laboratoire qu'ils ont. Ouais.
Ils sont tous revenus.
Ils sont tous revenus et quelques mois plus tard, ils ont envoyé Gagarine.
Voilà. Après, des humains morts dans l'espace, il y en a aussi.
Il y en a eu plein aussi, ouais, ouais, c'est sûr. Et donc.
Morts dans l'espace, je crois pas.
Bah,
mort
non,
dans la
mais,
course à l'espace.
Ouais, dans la course à l'espace, tu vois, ne serait-ce qu'une une fusée qui explose
ah,
au
oui,
décollage.
Oui.
Ou fin,
oui, ça s'est arrivé, oui.
Ah, bah, oui
mais dans
oui,
l'espace, par contre, non.
Dans l'espace, il n'y a pas eu de mort.
Ouais.
Hein, ah, ouais.
Il y en a eu à la redescente pendant la rentrée atmosphérique.
Ouais.
Bon, ça peut compter.
Tu veux dire que personne n'est encore jamais mort dans l'espace?
Non. Bah, des animaux, quoi, aussi.
Ouais.
Ouais, d'accord, mais pas d'humains.
Non.
Ouais.
Et donc, il faut voir les conditions de vie de ces animaux. Donc, les Américains, ils avaient choisi des singes parce que c'est les animaux les plus proches de nous, morphologiquement et tout ça. Donc, donc ils avaient choisi ça et quand même ils leur faisaient passer plein de tests, plein d'exercices. C'était, et puis c'était des petites décharges électriques. S'ils avaient OK, ils n'avaient pas. Si tu vois, il y avait,
il y avait un
tests.
Dressage un peu
ouais.
quoi. Ouais.
Et s'ils donnaient pas la bonne réponse, ils prenaient une petite décharge parce qu'ils leur faisaient faire des manips dans l'espace, toi, des, certains trucs pour voir si tu vois, tu peux
pour voir si ça affectait
si
leur
ouais,
capacité
voilà,
cognitive quoi.
Ouais. Et donc, les Russes, ils ont pris des chiens. parce qu'apparemment c'était l'animal qu'ils connaissaient le mieux en anatomie.
Okay.
Donc ils ont dit ok, on va prendre des chiens, et ils prenaient des chiens de la rue, des chiens endurcis pour eux, qui étaient
chiens errants,
plus costauds,
ouais, qui étaient bien costauds, habitués à vivre un peu en mode survie, quoi. Et du coup ils auront conçu des petites
Des scaphandres,
petits scaphandres, des petits vaisseaux pour eux, quoi.
Ouais.
Et des scaphandres, ils prenaient des chiens.
Pas des combis, ouais.
C'est des combinaisons.
Pas vraiment des scaphandres. Ouais. Ouais.
Ils prenaient des chiens femelles, parce qu'ils n'étaient pas obligés de lever la patte pour pisser, les chiens. Ils ne sont pas obligés. Et du coup, c'était plus pratique pour tout ça. Ouais, ils étaient plus calmes et tout. Et c'est les premiers essais de gel nutritif nourrissant, de cette espèce
De bouffe.
De bouffe lyophilisée pour les maintenir en vie. Et donc, voilà, il y a eu plein de tests. Il les faisait passer aussi en centrifugeuse. Toi, il y a eu vraiment...
Animal de laboratoire.
Ouais, exactement.
Mais après, quand tu vois l'entraînement des cosmonautes, t'es pas loin. Hein. Enfin, franchement, c'est un peu la même démarche.
Ouais,
hein.
Ouais. Bah ouais, c'est...
Oui, mais eux, ils sont volontaires.
Ouais, ils sont volontaires.
Ouais, et puis ils sont... Ouais. Et Du coup, il y a les Français aussi qui s'y sont mis.
Cocorico.
En 1963, ils ont envoyé dans la fusée Véronique, qui s'appelait comme ça à l'époque, ils ont envoyé Félicette.
Félicette.
Le chat.
Ah,
un petit chat.
Ouais. Avant, il y a eu des rats aussi.
Ah oui.
Mais Félicette, c'est la plus connue.
Et oui, alors on ne s'est pas rappelé la ville, mais il y a une ville où il y a, j'imagine, c'est ville d'origine, où il y a une statue de Félicette aujourd'hui. Qui a été érigé il y a quelques années.
Ouais.
Félicette.
Okay. Il y avait une rumeur sur Félicette, comme quoi ils avaient entraîné un chat, pareil, j'imagine que les chiens, centrifugeuses, tout ça, le bruit pour les habituer. Et la veille ou quelques jours avant, le chat qui avait été entraîné, il s'est enfui. C'est un des ingénieurs qui dit ah, moi j'en ai un. Mais en fait, je crois que c'est une rumeur. C'est une. Comment on dit ?
Ah ouais, un bruit de rue. Je sais pas si c'est vrai. Mais...
Non, parce qu'ils en ont entraîné plein en même temps. S'il y avait des problèmes comme ça, ils
pouvaient choisir. Oui, c'est ça. C'est plutôt ça, il y en avait d'autres. Ouais. Mais il y en a, il s'est échappé juste avant de.
Alors peut-être qu'il y en a quand même un, c'est là qu'est née la rumeur. Mais ouais, Félicette.
Et du coup, ils l'ont ramené en vie. Voilà. Mais 3 mois plus tard, ils l'ont euthanasié pour étudier son cerveau.
Ils ont voulu la couper en morceaux.
Ils avaient mis des électrodes dans son cerveau pour voir.
Ça, ils ne se permettraient pas de le faire avec un cosmonaute, quand même.
Non, c'est des cobayes aussi, mais pas à ce point.
Ok.
Et en 67, ils ont envoyé 2 singes, Martine et Pierrette. Voilà. Et plus récemment, mais aussi en 73, donc c'est pas trop récent, mais quand même, dans la première station orbitale américaine, ce qui s'appelait Skylab, ils avaient envoyé des poissons et des araignées. Alors les poissons, c'était pour les faire vivre dans un milieu liquide en apesanteur. Enfin, tu vois, dans leur lieu de vie naturel, mais en apesanteur dans l'eau, quoi, pour voir comment ils réagissaient. Et au début, ils sont un peu désorientés, ils nagent sur le dos, ils nagent tout bizarrement. Et puis, au bout de quelques jours, ils sont normales, quoi. Ils y arrivent. Et les araignées, c'est pareil. Elles ont tissé des toiles toutes biscornues, apparemment. Il y a des photos où... Et au bout de quelques jours, pareil, elles retrouvent les repères et c'est reparti normal. Et encore plus récemment, en 2007, ils ont envoyé des tardigrades. Alors ça, on en avait beaucoup entendu parler, même encore maintenant.
Ah oui, c'est les extrémophiles.
Ouais. Des tout petits insectes de 1 mm.
J'ai vu une photo, on dirait presque qu'ils ont un costume de cosmonaute.
Ils sont rembourrés un peu.
Étrange, quoi. Ouais.
Ouais, c'est assez particulier. Comme,
ouais, carrément.
Et oui, ils résistent à tout.
Et ben, ils ont résisté pendant 10 jours dans le vide de l'espace.
Ouais, dans le vide.
Ils les ont récupérés et ils étaient encore vivants et ils sont reproduits, tout ça.
Ouais, ils se mettent en gel, quoi. Une sorte d'hibernation, jusqu'à ce que les conditions soient bonnes.
Ouais, ils font beaucoup de tests comme ça pour voir s'il n'y a pas de changement d'ADN, pour voir si la reproduction est encore possible. Pour voir si le métabolisme ne se change pas complètement, qu'est-ce qui se passe, est-ce que l'ADN s'adapte, ça c'est peut-être
parce que là, en plus, dans le vide, à la surface de la station, ils ne sont pas du tout protégés contre le rayonnement solaire.
Non, ils sont dans le vide.
Mais que leur ADN s'adapte, ça, il faudrait quand même voir
sur des terme. Génères,
ouais, sur un temps d'études qui n'existe pas pour l'instant. Quoi.
Ben, en tout cas, pour déjà le tardigrade, je ne sais pas, mais pour rebondir sur ce que tu dis, si on, en étudiant les, je crois que c'est des moustiques ou des insectes qui se reproduisent très très vite, et du coup, en un an humain, tu vois des effets sur,
oui,
sur 60 générations.
Ouais.
Alors, je ne sais pas la durée de reproduction des tardigrades, mais bon.
C'est une bonne question. Un jour.
Si vous avez la réponse.
Et du coup, ouais, tous ces tests, c'est encore des prémices, hein, un peu en vue de colonies humaines dans l'espace. On peut aussi le voir comme ça,
De voyage et
de premiers cobayes de colonies dans l'espace pour les animaux, quoi. Voilà. En vue de voyager très longtemps dans l'espace.
Ou au moins, par exemple, d'y faire une base.
Au moins une base.
Ne serait-ce que sur la Lune, pour commencer, et puis de voir ce qui se passe, quoi.
Ouais.
Ça va bien finir par arriver, de toute façon.
Oui, c'est bien parti, oui.
Ok.
Voilà, les animaux, les insectes.
Merci, Pierrick.
Eh ben merci. Donc, on va faire une petite pause dans cette émission et on va écouter un peu de musique.
C'est Pierrick qui a choisi le...
C'est Angus et Julia Stone. C'est My House, Your House.
This is where we belong. your house.
Bon retour dans l'étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA 107.5. On est toujours dans cet épisode 33 et donc là on va finir l'émission avec un petit point d'astro que je vais faire sur les méthodes de détection des exoplanètes. Donc ce sera un peu l'occasion de clôturer une petite série d'émissions consacrées à la planétologie. Mmh. On a parlé de la formation des planètes et pour ça on a dû parler de la formation des étoiles. Et on a parlé des exoplanètes et de tout ça, des formations des systèmes planétaires en fait. Et donc je vais terminer avec la façon qu'on a de détecter ces planètes qui ne sont pas dans le système solaire.
J'ai une petite parenthèse d'actu, on a passé le chiffre de 5000 exoplanètes détectées.
5000 exoplanètes, voilà.
Alors donc, comment les détecte-t-on?
Ouais, comment les détecte-t-on, c'est un peu le sujet. Alors c'est vrai que sur ces 5000 exoplanètes, il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle Jupiter chaude. Mm-hmm. C'est des espèces de grosses géantes gazeuses qui orbitent assez près de leur étoile. Ouais. Et ça, c'est le gros de ce qu'on détecte. Et en même temps, c'est pas complètement étonnant parce que bah, du coup, c'est quand même c'est assez massif. Donc ça impacte sur son système, sur le système planétaire qui est autour et sur l'étoile elle-même, on va en reparler. Et comme Jupiter influe sur le Soleil en termes de mouvement et de gravité. Ouais. On a beau dire que les planètes sont toutes petites par rapport aux étoiles, quand on a affaire à une planète comme Jupiter et Saturne dans une moindre mesure, parce qu'aussi elle est plus loin, mais quand même, ce sont des grosses géantes
loin,
gazeuses.
Saturne, hein, ouais. Que Jupiter, elle est vraiment proche en fait. Hein, quand on
elle
n'est
pas
les
si proche, mais elle est quoi, 4, 5 UA non plus je ne me rappelle pas.
J'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, j'ai vu un truc à l'échelle et Jupiter est très proche du Soleil et Saturne, c'est quand même 3 à 4 fois plus loin.
Je crois que c'est dans les 750 millions de kilomètres et Saturne le double, un truc comme ça.
Ouais,
en tout cas, Saturne est deux fois plus loin.
Beaucoup plus loin. Il y a un gros espace vide là entre les deux. Enfin bref, et c'est le gros des planètes qu'on détecte parce qu'elles influent sur leur système. Mais après, nous, ce qu'on cherche, dans toute cette quête, évidemment, des exoplanètes, derrière, il y a la quête d'une vie extraterrestre qui est toujours un peu présente, sous-jacente dans ce thème.
Bah, c'est clair.
Et donc, il y a quand même beaucoup de programmes consacrés à qu'est-ce qu'on pourrait essayer de détecter qui serait une trace d'une vie, en fait. C'est aussi ça. Donc, ça forme obligatoirement l'idée de c'est quoi une vie, comment elle peut se développer selon la chimie qu'on connaît, bizarrement on retrouve toujours que là où la vie a le plus de chances de se développer en fait c'est dans un endroit comme chez nous. Donc on se demande s'il n'y a pas un petit biais dans le raisonnement des fois, mais bon, en tout cas rechercher des planètes qui soient plus habitables pour nous ou potentiellement il y en a beaucoup moins et donc elles sont plus petites, elles sont moins lumineuses, elles sont plus dures à trouver. Parce qu'évidemment, plus un objet est petit, moins il émet de lumière. Et plus comme c'est très loin, tout ça, on a du mal à le voir. Donc voilà ces méthodes, comment on détecte ces exoplanètes. Alors là, on peut dire que le premier grand type de méthode, c'est d'observer. C'est le transit. Là. Non, le transit, c'est pas vraiment le plus important. En fait, le plus important, c'est vraiment en termes gravitationnels et de mouvement ou d'astrométrie. Donc c'est des méthodes en fait qui il y a un transit au sens où la planète passe entre nous et l'étoile.
Ouais. D'une façon ou d'une autre. Pas la lumière. C'est autre chose.
C'est l'étoile qui bouge sur elle-même.
C'est
parce ça. Que la
ouais, c'est-à-dire
c'est que la détection par vitesse radiale.
C'est l'effet
par
de
vitesse radiale, ouais.
Ok.
Détection par vitesse radiale ou par l'astrométrie, parce que ça, selon en fait comment le système est orienté par rapport à nous. Ouais. Si le système, on le voit par la tranche, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez une étoile et en fait vous voyez une planète qui tourne et si vous dessinez sa trajectoire, ça fait un rond comme un anneau en fait autour de l'étoile. Donc vous êtes dans la tranche du système. Là, ce que vous allez faire, c'est de l'astrométrie, c'est-à-dire que vous allez observer que l'étoile, en fait, elle n'a pas une position exactement fixe. Elle se déplace un petit peu et elle fait des allers-retours en fait autour d'une position. Donc ça veut dire qu'en fait elle décrit une sorte d'ellipse autour d'un centre de gravité qui n'est pas son propre centre.
Ouais.
Et c'est exactement ce qui se passe dans le système solaire. Et c'est pour ça que je disais que Jupiter avait une influence sur le Soleil. C'est-à-dire que si vous regardez où est le centre de gravité réel du système solaire, il est à la surface du Soleil.
Oui, il est.
Pas très loin.
En tout cas, il n'est pas au centre du Soleil.
Non, il est à peu près en un point qui est à peu près dans une distance à la surface du Soleil. Donc ça veut dire en fait que on imagine bien que le Soleil, sur une certaine période, il décrit un tour autour de son propre centre, comme si nous, on avait un barreau et on faisait un tour autour d'un barreau. Quoi.
Oui, oui.
Et ça, on peut le détecter, puisque on voit, et en plus, on voit que c'est périodique. Oui. Évidemment, on peut, si on arrive par ça, plein de façons, parce qu'il y a plein de façons indirectes de mesurer la masse des étoiles, on n'a jamais pris une balance pour l'amener là-bas. Donc, en fait, c'est toujours des calculs où on arrive à trouver la masse par différentes façons. Du coup, comme on voit l'oscillation, on voit une période d'oscillation, on voit une distance, on peut faire le calcul et trouver la masse de la planète.
Oui.
Donc ça, c'est quand le système est vu par la tranche. Et en fait, ce que tu disais, le système des vitesses radiales, en fait, c'est du coup par effet Doppler.
Oui.
On mesure la vitesse radiale des étoiles. Et effectivement, alors là, je trouve que c'est un peu plus difficile à interpréter. Mais l'idée, c'est que si l'étoile, de toute façon, tourne sur elle-même.
Oui.
Et on est capable. Donc, en fait, imaginez une étoile qui tourne sur elle-même et vous mesurez la vitesse du gaz au bord de l'étoile. Ben forcément, vous trouvez une petite. Vous trouvez une vitesse. Déjà, vous avez une vitesse qui va vers l'extérieur.
Mm-hmm.
Vous avez une vitesse qui va vers vous.
Ouais.
D'accord. Donc vous détectez de toute façon déjà une vitesse en fait d'une étoile, parce qu'une étoile s'éloigne toujours de nous, ne serait-ce que par le Big Bang et l'expansion de l'univers. Donc de toute façon l'étoile elle s'éloigne, mais en plus de ça il y a cette rotation. Et si vous mesurez la rotation du gaz, vous observez que comme elle fait toujours avec cette histoire d'oscillation, ça fait encore des fois une vitesse qui revient vers vous ou une vitesse qui s'éloigne de vous. Et donc, ça décale la valeur des vitesses que vous trouvez par effet Doppler qui calcule, lui, la vitesse à laquelle ça tourne. Donc, vous pouvez mesurer cette variation-là, due à l'éloignement et au rapprochement de l'étoile, par le fait qu'elle va tourner, du coup, en apparence à des vitesses un peu différentes. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails.
Très bien.
Mais ça, c'est le premier grand type de méthode. Et la deuxième dont on vient de parler, c'est comme ça que la première exoplanète a été trouvée.
La première ?
Oui.
Okay.
À l'Observatoire de Haute-Provence.
Exactement.
Voilà. Donc, voilà
tu,
les
tu
deux...
Tu connais l'anecdote sur cette première détection ?
Avec la clairette ?
Oui.
Ouais. Tu l'as déjà raconté.
J'ai déjà raconté. La semaine dernière, non ?
Non, c'était pas la semaine dernière.
Non, mais je trouve ça chouette. Tu me fais toujours rire.
Rappelle-la-nous.
Alors, rappelle-la-nous, la clairette.
Je la fais très courte, mais les deux scientifiques, quand ils ont découvert ça, ils ont fêté
l'événement.
Ils ont fêté l'événement avec une clairette de dit.
Trop bien.
Et sachant qu'ils étaient en Suisse, je crois, à ce moment-là.
Bah oui, c'est l'amour du terroir. Bon, bref.
Voilà, je te laisse continuer.
Et ça, c'est les deux premières grandes méthodes de détection. Ensuite, il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on appelle la méthode de transit. On l'utilise surtout, en fait, quand on détecte de la lumière. Là, on passe plus on n'est plus dans la gravitation et dans la détection des vitesses. Mmh. On est dans l'étude de la luminosité.
Mmh.
Et en fait, si vous avez une planète qui vient... qui passe devant l'étoile, en fait, donc qui transite devant, elle fait une ombre dessus. Donc forcément, la luminosité, elle baisse légèrement. Si votre détecteur, il est assez sensible et si la planète est suffisamment quand même, a une taille suffisamment importante pour occulter une partie de la lumière.
Mais ça ne fait jamais une éclipse comme nous, on a avec les éclipses
du
soleil.
Voilà, ça va être vraiment une infime variation.
Ouais,
c'est-à-dire que vous, si vous regardez, vous observez l'étoile, vous ne voyez pas.
De...
Ouais, ouais, c'est ça, on est vraiment dans des choses très fines. Donc voilà, mais on arrive quand même à le faire. Donc ça, c'est aussi une autre... une autre façon.
Ça, j'ai un truc à dire là-dessus aussi.
Dis-nous.
Ça n'a rien à voir avec la clairette. Quoique, le mec qui a découvert et qui a fêté ça avec la clairette, Michel Mayor, il a été dessiné, représenté dans un jeu vidéo en ligne qui s'appelait Eve Online. Et en fait, il y avait des actions dans le jeu qui prenaient du temps, où tu n'avais rien à faire. Et tu pouvais, pendant ce temps, faire une sorte de mini-jeu où on te mettait des relevés de lumière de telle ou telle étoile. Mmh. Et si tu voyais qu'il y avait un trou à un endroit, tu le marquais. Et du coup, tu aidais la science en fait en analysant les relevés justement de lumière des étoiles, parce que l'œil humain est plus adapté que les algorithmes pour détecter des fois des trucs qui peuvent être réguliers ou quand ils sont pas réguliers.
Faire le tri en fait.
Et du coup, il était présenté dans le jeu par un avatar de Michel Mayor.
Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs comme ça où c'est l'œil humain qui doit quand même détecter parce que les machines, elles n'arrivent pas.
Ouais, ou le cerveau, des fois de la logique. Ou, la recherche par le jeu vidéo, souvent ça passe et ça se fait.
Ouais. Ah ouais.
Voilà.
Il y a de l'espoir.
Donc, voilà pour ces méthodes de détection qui forment quand même l'immense majorité de ce qu'on fait pour trouver donc les 5000 exoplanètes jusqu'à présent qu'on a détectées. Maintenant, il y a un dernier type de méthode, mais qui en fait est plus en devenir, c'est ce qu'on va appeler la méthode directe. Où en fait on voit la planète, tout simplement.
Ah oui, ce que j'allais dire.
Mais ça, c'est encore hyper rare en gros. Mmh. Bah, tout simplement pour les raisons qu'on a évoquées au début, c'est-à-dire que c'est tout petit, c'est très loin et c'est sombre. Mmh. Par essence, hein, on le rappelle, une étoile émet de la lumière, une planète n'en émet pas. Donc au mieux, elle en diffuse ou elle en cache, mais c'est tout ce qui va se passer. Donc en termes de détection directe, alors là, on va plus aussi être dans. Alors du visuel, je ne sais pas, mais en tout cas de la photographie de lumière, de la captation de lumière, pas dans la gravitation, parce que là, il y a aussi des façons qui ont permis de détecter, mais une, deux, ou bon, très peu d'exoplanètes, par l'antigravitationnel, justement. Oui. C'est-à-dire par l'effet dont on parlait tout à l'heure. Mais là, c'est des cas qui sont extrêmement difficiles à détecter et qui, pour l'instant, donnaient quand même assez peu de résultats. Donc, à pousser, à voir, à développer dans l'avenir. Mais sinon, la méthode directe, c'est beaucoup aussi en faisant de l'occultation, c'est-à-dire de cacher, de supprimer la lumière de l'étoile le mieux qu'on peut pour voir ce qu'il y a autour, pour de toute façon étudier l'indice d'accrétion, l'indice de poussière qui, de toute façon, va diffuser. Donc, voilà, là, tout ça, c'est des informations, mais en faisant ce qu'on appelle de la coronographie, qui consiste à... Il y avait un vieil instrument comme ça, dont on ne sert plus, mais qui existait avant dans l'astronomie amateur, qui était le coronographe, où il faisait... c'était un instrument dédié qui, à l'intérieur du tube, faisait une occultation du disque. Mmh. Mais évidemment, ces instruments sont quand même sensibles, qui doivent être vraiment bien réglés, parce qu'on sait très bien qu'on ne joue pas avec la lumière du soleil dans les télescopes. Quoi. Ça brûle l'œil de façon quand même assez, assez drastique. Donc... voilà, en tout cas, ce dernier type de méthode, les méthodes directes pour détecter les exoplanètes, sont encore, on va dire, en développement. Mmh. Alors, il faut voir aussi avec le James Webb Télescope, c'est clair, ça fait partie
j'allais citer aussi
des directions d'avenir.
Le Extremely Large Telescope de 34 mètres.
Donc, au-delà du VLT, parce qu'il y avait quand même le VLT. Hein,
ça, on est sur les télescopes sur Terre, les observatoires.
Ouais.
Le VLT est énorme, c'est 34 mètres.
Le VLT est dans le désert d'Atacama. C'est lui qui est dans le désert d'Atacama.
Aussi, les deux, tous. Ouais. 34 ou 39
Donc c'est dans la trentaine. Ça, ce sont des énormes antennes, en fait. Mm. Là, on n'est plus dans les miroirs, c'est des radiotélescopes, tout ça.
Non, je crois que c'est du miroir. C'est du miroir.
C'est un miroir. C'est comme le James Webb, c'est plein de miroirs.
Ouais, c'est ça.
Facettes là, tu vois.
En nid d'abeille.
En nid d'abeille, oui.
Le VLT, c'est plusieurs grands miroirs qui se combinent entre ces plusieurs coupoles.
Mais c'est quand même une sorte d'interféromètre.
Et par contre, le VLT, c'est ça, c'est des facettes qui se règlent.
Donc voilà, ces méthodes directes, elles vont se développer en même temps que la science, enfin plutôt la technologie se développera et les méthodes de détection. Voilà. Donc retenir, hein, c'est ça. Voilà comment on trouve ces planètes. Et quand même, le gros de l'affaire, c'est ce qu'on disait au début. Soit le transit, la luminosité qui baisse, soit la détection des... soit l'astrométrie, c'est-à-dire la détection de la position d'une étoile qu'on voit osciller autour d'une position. Comme on le rappelle, le Soleil oscille autour d'un point qui est en fait à sa surface. Voilà. Et c'est comme ça qu'on trouve ces planètes. On va clôturer ici ce petit point et cette émission par la même occasion.
Je vais peut-être revenir sur ce chiffre de 5000 planètes. Là, c'est quand même.
C'est peu quand même.
C'est peu et quand même, ça fait quoi. Depuis 95, là. Je trouve que c'est quand même déjà... parce que c'est des méthodes ultra fines, comme tu
viens
de le
dire. Ah non,
mais
je ne dis pas, c'est à chaque fois, c'est des exploits de détection.
Ouais.
Mais en même temps, quand on pense au nombre d'étoiles, à l'immensité... Mais en même temps, après, la statistique qui est derrière...
On peut reprendre l'équation de Drake et faire de la statistique.
Non, mais même en mode intermédiaire, il y a quand même l'idée qu'il y aurait un dixième... En gros, pour avoir un ordre de grandeur. Après, il faut les trouver, mais... il semblerait de ce qui 5000, on peut déjà commencer à faire une mini statistique dessus.
Ouais,
et c'est ça aussi qui est intéressant, et de voir que
voir le rapport entre le nombre d'étoiles qu'on a observé et
la planète en observant. Et on voit que ça fait un dixième à peu près, je crois. Okay. C'est ça l'ordre de grandeur. C'est-à-dire que 10% des étoiles auraient des planètes. Donc après, évidemment, on peut affiner en disant ce qu'on disait, le gros, c'est quand même des Jupiter chaudes.
Oui, voilà.
C'est-à-dire des choses qui sont complètement hostiles pour nous. Enfin, sinon, jamais on va aller là-bas. Ou même s'il y avait une forme de vie là-bas, on n'imagine même pas comment on pourrait communiquer avec elle. Enfin, parce qu'elle serait complètement haute.
Ah oui, là, ça serait... Mais par contre, des planètes telluriques, je sais pas ce que ça représente sur les 5000.
Je sais pas.
Mais c'est une minorité, c'est sûr.
C'est une minorité, mais il y en a, ça, c'est sûr aussi.
Oui, oui, oui.
Mais il y a aussi tout ce truc des planètes naines, quand on voit Cérès, quand on voit en fait même ces petites planètes-là qui oscillent dans la ceinture d'astéroïdes. Ou dans la ceinture de Kuiper, même un peu plus loin, même si c'est des mondes qui sont du coup très, très loin, très froids. Mais il y a des petites sphères, des petites planètes, des petites lunes, en fait, il y en a. Et ça, il doit y en avoir plein aussi. Il y en a chez nous autant. Quand tu multiplies par le nombre de systèmes planétaires qu'il y a, ça en fait déjà un paquet.
Si chaque étoile a un système planétaire un peu fourni comme le nôtre, ça fait du monde, quoi.
Donc voilà, on estime un dixième. Parce qu'il y a aussi des étoiles qui sont vieilles, des étoiles qui... il y a plein de...
En fin de vie.
Ou trop jeunes.
C'est
ça aussi.
Ouais.
Bref. Donc voilà un peu sur ces histoires de planétologie. Et essayer d'élargir un peu l'horizon. Comment on avait appelé ça au début, Pierrick, une géographie étendue.
Ouais.
Un truc comme ça.
La carte proche, stellaire.
Et ben on espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Et on vous retrouve la semaine prochaine.
Bon dimanche.
Bon dimanche.